Voilà. Bien. Bonjour. Nous allons aujourd'hui, vous le savez, terminer notre petit cycle de deux conférences consacrées à la peinture en Russie au XIXe siècle. D'ailleurs, actuellement, je termine beaucoup de choses puisque nous allons là terminer le cycle sur la peinture en Russie, un cycle qui a commencé à 15 jours que nous terminons aujourd'hui. Je tiens à dire également que nous terminerons la semaine prochaine, certains d'entre vous le savent bien, la série des ateliers d'histoire de l'art concernant la peinture en Italie au XVe et XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on commencera juste après le second atelier. Le président me dit qu'il y a encore des places. Alors dépêchez-vous pour ceux qui le souhaitent, parce que je vais en parler. Parce que très souvent, ça a été le cas la dernière fois, des gens s'inscrivent trop tard, il n'y a plus de place. Donc inscrivez-vous tôt pour être sûr d'en avoir. Et je rappelle que le thème de l'atelier qui vient est consacré à la question de la restauration du patrimoine. Comment restaure-t-on le patrimoine? Quelles sont les règles de la restauration? Les méthodes, les techniques, les moyens? C'est ça le thème de ce deuxième atelier. Et je rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour vous d'être restaurateur de peinture, de sculpture, de céramique, de thèmes, etc. pour suivre ces ateliers. Au contraire, si vous connaissez rien, et surtout si vous connaissez rien, c'est votre place. Si vous connaissez quelque chose, ça n'est pas votre place. On n'aura rien à échanger, si j'ose dire. Si vous n'y connaissez rien, c'est là qu'il faut venir. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Et si vous voulez avoir une petite idée sur ces choses-là, eh bien venez. Il reste 6 ou 7 places. Voilà, 5 ou 6. Voilà, n'hésitez pas, l'atelier commencera dans 15 jours. Mais après cette page de publicité, je vous propose de commencer la séance qui est prévue donc aujourd'hui sur la peinture russe au XIXe siècle et précisément sur la période 1860-1895. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons eu l'occasion de parler de la peinture en Russie, grosso modo, dans une grosse première moitié du XIXe siècle, en gros, la période romantique. Et je vous rappelle que nous avons eu la dernière fois un certain nombre de choses à évoquer qui ont permis, en particulier, je ne vais pas aujourd'hui refaire le cours de la dernière fois, mais qui ont permis de labourer, pourrais-je dire, la totalité de la première moitié du XIXe siècle russe. Vous vous rappelez qu'après la phase néoclassique que l'on retrouve en Russie comme ailleurs, nous avons pu voir comment au début du XIXe siècle s'installait avec des artistes comme Kiprensky et Tchédrin une phase romantique, je dirais très européenne, mais que suivait ensuite une phase plus singulière, très russe pourrait-on dire, une sorte de premier réalisme, très marqué par le romantisme, mais encore une fois très marqué aussi par le réalisme, avec des artistes comme Tropinin, Korveneziannov ou bien Soroka, je pense que vous vous rappelez des artistes en question. Après, plus vers le milieu du siècle, s'installe une période académique, avec en particulier Brioulov, vous vous rappelez, n'est-ce pas, du grand tableau dont je vous ai montré une vue le dernier jour de Pompéi. Et puis, j'ai terminé la séance précédente en évoquant la personnalité très singulière d'Ivanov, un artiste qui n'a pas, à vrai dire, d'équivalent dans la Russie du temps. Et enfin, j'évoquais tout à fait à la fin de la séance ce que l'on appelle le réalisme critique à partir d'un peintre qui s'appelle Fedotov, dont vous vous rappelez peut-être certaines vues, hein, un artiste qui vraiment montrait la société russe, mais avec beaucoup d'ironie, avec une sorte de caractère un peu cinglant. C'est comme cela, c'est avec Fedotov que s'est terminé le cours de la dernière fois. Alors, je vous propose que nous abordions maintenant, on va fermer les lumières, s'il vous plaît, le cours suivant, consacré donc à la peinture en Russie dans la petite moitié du XIXe siècle. Nous allons partir de 1860 et aller jusque à la fin du XIXe, aux alentours de 1895. Je rappelle que la dernière séance, je l'ai terminée assez rapidement d'ailleurs, en vous montrant quelques vues d'un artiste qui s'appelle Perov, dont je vous remontre ici un tableau représentant une procession de Pâques. Perov est un artiste très intéressant parce que quelque part, il clôt le romantisme et ouvre une nouvelle période de la peinture russe parce qu'on voit finalement dans un tableau tel que celui-là à la fois ce qui existait avant et ce que l'on va commencer à voir après. Par exemple, on voit dans ce tableau de Perov ce que l'on voyait chez Fedotov, cet artiste romantique du réalisme critique dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire une vision un peu cinglante et très décalée de la société russe. Voyez comment dans cette procession de Pâques, par exemple, qui se passe en plus dans la boue, tout le monde patauge un peu, on voit comment le pape sort de l'église, visiblement assez éméché, il a du mal à tenir debout. Hein. Voyez comment à sa gauche, il y a d'ailleurs carrément un fidèle qui est par terre. Visiblement, la procession de Pâques est assez arrosée. D'ailleurs, à droite de l'escalier, on en voit un autre qui patauge littéralement allongé dans la boue. Bref, on voit bien ici que Perov, comme Fedotov, regarde la société de son temps avec une certaine ironie. Mais en même temps, il y a chez Perov ce que l'on trouvait moins chez Fedotov, un regard extrêmement réaliste, quelque chose qui a pour but de décrire par le menu et avec beaucoup de précision la société de son temps. Et ce réalisme un peu pur et dur, direct, cinglant, pourrait-on dire, c'est une chose que l'on avait peu vue avant, surtout pas dans des œuvres de Venezianov, par exemple, hein, ce réaliste romantique dont je vous montrais la dernière fois une sorte toute une série de peintures très élégiaques. Hein. Ici, on a chez Perov quelque chose véritablement de beaucoup plus direct, de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus brutal, pourrait-on dire. C'est donc l'un des intérêts du travail de Perov qui, décidément, clôt une phase, celle du romantisme, et en ouvre une autre, qui est celle que nous allons justement évoquer aujourd'hui. D'ailleurs, avec cette autre œuvre de Perov, qui représente des apprentis au travail, c'est le titre du tableau, on voit bien comment Perov quitte la dimension, je dirais, ironique de sa peinture pour arriver dans une vision plus brutale, plus directe, une critique de la société, mais une critique qui n'est pas distanciée et amusée, comme on pouvait le voir dans le tableau précédent, mais une critique cette fois plus politique. Hein. Il y a là de la dénonciation qui est bien visible chez cet artiste. Et je terminais la séance dernière par Perov, qui décidément est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, par ce très beau portrait de Fédor Dostoïevski, qui finalement, en littérature, d'une certaine manière, incarne bien ce passage d'une période à une autre. Alors, si on aborde maintenant directement cette deuxième moitié du XIXe siècle russe, dans le domaine de la peinture, on peut à vrai dire la diviser en quatre thèmes, en quatre phases, la première étant celle de ce que l'on appelle les ambulants. Qu'est-ce que c'est que ces ambulants? Il faut savoir qu'au début de cette seconde moitié du XIXe siècle, les peintres russes s'interrogent. Parce que, d'une certaine manière, ce milieu ou ce début de la seconde moitié du XIXe siècle sanctionne la fin de ce que l'on peut appeler l'ère des académies. Je voulais évoquer la dernière fois, vous savez que fin XVIIIe, début XIXe siècle, au moment où vraiment la création picturale russe commence à se fédérer de manière très forte, hein, sont mises en place des académies, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, nous en avions parlé. Seulement voilà, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce travail des académies commence à être un peu suranné, un peu dépassé, et les peintres vont vouloir, certains d'entre eux du moins, mettre en place des structures un peu nouvelles. Et c'est ainsi qu'en 1870, va être créée par une sorte de collectif d'artistes, une association qui s'appelle la Société des artistes des expositions itinérantes. Et cette société des artistes des expositions itinérantes s'est très vite désignée de manière un peu plus rapide sous le nom d'ambulant. Cette société a d'ailleurs été co-créée par un certain nombre de peintres, dont Perov, dont je viens de vous montrer trois œuvres, mais d'autres aussi, notamment Kramskoï, dont nous allons reparler, Gay, dont nous allons également reparler, qui sont trois des créateurs de cette société des ambulants, appelons-la comme ça. Quel est le but, quels sont, je dirais, les statuts de sa société des ambulants? Et j'y insiste un petit peu parce que cette société des ambulants est vraiment, je dirais, la structure qui va littéralement créer cette nouvelle peinture de la deuxième moitié du XIXe siècle russe. À peu près tous les artistes dont je vais vous parler aujourd'hui, sont générés par cette société des artistes des expositions itinérantes. Il est donc important de savoir ce qu'elle est, ce qu'elle contient. D'abord, cette société des ambulants est une association qui accueille, qui rassemble toute une série de peintres libres, qui ne sont pas forcément passés par le carcan, devenu de plus en plus rigide, je dirais, des académies. Les académies sont considérées comme surannées. La société des ambulants rassemblera des artistes libres. L'autre idée est également, et ça c'est une idée assez nouvelle, de faire circuler à travers tout le pays, les villes, mais aussi les villages, des œuvres d'art. L'idée n'est pas de se concentrer à Saint-Pétersbourg ou à Moscou ou dans quelques grandes villes du territoire, mais vraiment d'aller dans les villes, dans les campagnes, pour montrer les œuvres de la société en question. Et vous comprenez bien par là, c'est aussi un des grands thèmes de cette société des ambulants, qu'il y a une volonté de ces artistes d'abord de s'intéresser à la société et notamment aux couches les plus populaires. Cette sympathie envers les couches populaires est un élément très fort de cette société des ambulants, mais également une volonté des artistes en question de se mêler à la société. Les artistes ne sont pas donc des sortes de démiurges qui s'enferment dans des académies et qui, entre quatre murs, en quelque sorte, travaillent leurs œuvres. Non, ce sont des artistes qui se fondent à la société. Il y a donc là une volonté tout à fait nouvelle que l'on n'avait pas vue avec autant, je dirais, d'engagement, si on peut être chez Venedianov, dans la première moitié du siècle. Ça veut dire aussi, et cet élément-là est capital et assez nouveau, qu'il y a une volonté dans cette société des ambulants, de la part des artistes qui en font partie, de travailler en direction de réformes sociales. On voit bien commencer à poindre dans cette Russie de la deuxième moitié du XIXe siècle une sorte de lutte contre une société dans laquelle, par exemple, le servage est encore de mise et qui commence évidemment à poser toutes sortes de problèmes contre lesquels, en particulier, les artistes vont vouloir se placer, se poser. Alors, très naturellement, ces différentes idées qui fondent la société des ambulants vont pousser les artistes qui s'y trouvent à travailler dans le domaine du réalisme et dans le domaine de ce qu'on peut appeler le populisme pictural. Ces deux mamelles-là sont vraiment les éléments essentiels de la société des ambulants qui va, si j'ose dire, se trouver une troisième mamelle pour alimenter son génie, pourrait-on dire. C'est l'idée de la conscience nationale. Les ambulants sont des gens qui s'intéressent à la population, à la société. Ce sont des, entre guillemets, parce que ce terme, surtout aujourd'hui, est un terme un peu compliqué, ce sont des populistes, au moins picturaux, mais ce sont également des réalistes. Mais en plus, ils veulent doter leur art, leur travail, d'une conscience nationale. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que cette conscience nationale, cette volonté d'être des peintres russes, ne les oblige pas du tout, par contre, et vous allez le voir, à faire de la peinture, si j'ose dire, avec un style russe très marqué. Ça, c'est quelque chose qui interviendra plutôt à l'extrême fin du XIXe et surtout au début du XXe siècle. On verra des artistes russissimes, si j'ose dire, qui vraiment s'inspireront de l'ethnographie russe pour travailler et proposer des œuvres. Mais là, avec les ambulants, mais s'il y a une conscience nationale, une sorte de volonté de créer une école picturale russe, l'idée n'est pas de faire des œuvres, j'allais presque dire ethnographiques, l'idée n'est pas d'exploiter le folklore russe, mais bien de proposer une sorte de grande école picturale russe, mais qui n'est pas ethnographique pour autant. Voilà donc comment on peut résumer, j'allais presque dire, les statuts de cette société des ambulants qui, vous le voyez, montre des idées finalement très nouvelles face à ce que l'on a pu voir précédemment. Alors, quels sont les artistes de cette société des ambulants qui se détachent dans ce début de la deuxième moitié du XIXe siècle? Le premier d'entre eux, c'est Kramskoï. Kramskoï, qui, je vous le rappelle d'ailleurs, est un des créateurs, un des fondateurs de la société des ambulants. Je vous montre ici un tableau qui a fait beaucoup parler de lui en 1872 quand il a été présenté, qui représente le Christ dans le désert. Vous le voyez dans un tableau tel que celui-là, qui illustre très bien ce que je vous ai dit il y a un instant. Kramskoï montre bien mais il appartient au groupe des ambulants, qu'il fait une peinture réaliste, il nous montre le Christ, et pourtant, j'allais dire, c'est plus un homme christique que nous avons devant nous que le Christ, j'allais dire, glorieux, infaillible, qui nous a été montré par toute une tradition de la peinture. Ce que nous montre ici Krasskoï, c'est un Christ qui est là, assis dans le désert. Vous savez qu'après le baptême, le Christ est parti dans le désert pendant 40 jours, c'est là qu'il a été tenté par le diable, vous connaissez cet épisode. Et bien là, justement, le Christ qui jeûne, qui d'ailleurs a un visage un peu marqué par le jeûne, est plongé dans ses pensées. On le sent, j'allais dire, un peu même angoissé, en tout cas face à son destin. On a l'impression qu'il réfléchit beaucoup. Ce qui est intéressant avec un tableau tel que celui-ci, c'est vraiment le réalisme direct, presque froid, qui est le sien. D'une certaine manière, un réalisme quasi photographique. Regardez, par exemple, la manière dont les rochers sont réalisés. Il y a là vraiment une volonté presque hyper réaliste. L'idée est vraiment de casser cette idée, cette vision, j'allais dire un peu hors sol, d'un Christ sauveur de l'humanité, qui n'est pas comme tout être humain. Non, il est un être humain. Le voilà jeûnant dans le désert, en proie à ses pensées. Il est en quelque sorte angoissé face à son destin. Voilà un thème biblique qui, d'une certaine manière, a une résonance contemporaine. C'est ça qui intéresse les ambulants, de voir comment, quelque part, la grande peinture, notamment la grande peinture d'histoire, cette école russe qu'ils sont en train de vouloir vraiment mettre en place et fonder, est une école singulière en ce qu'elle conjugue les grands thèmes, bibliques en l'occurrence, mais aussi une sorte de contemporanéité de l'histoire qui s'écrit sous leurs yeux. Ce Christ dans les déserts est vraiment une sorte de manifeste de cette peinture des ambulants. Encore une fois, n'est-ce pas, un thème réaliste, populiste, entre guillemets, en cela qu'il est décidément réaliste, mais un thème qui ne travaille pas, j'allais dire, une sorte d'ethnographisme russe. Au contraire, c'est de la grande peinture, mais traitée à la russe. On doit également à Krasskoï ce très beau portrait de Léon Tolstoï. Krasskoï a réalisé d'ailleurs d'assez nombreux portraits. Et ce qui est intéressant dans un tableau tel que celui-ci, c'est un peu de la même manière que dans le tableau précédent, de nous montrer un grand génie de la littérature russe, mais d'une manière, là aussi, très quotidienne. Tolstoï est montré ici, non pas comme une sorte de génie littéraire, là aussi, un peu dégagé de la société russe du temps, non. Il est comme surpris dans son quotidien. Il est représenté avec des habits qui sont ceux de tous les jours, dans un espace qui, là aussi, ne se distingue pas par une mise en scène quelconque. Et en même temps, Krasskoï nous montre ici un des grands noms de la littérature russe. C'est-à-dire qu'il va conjuguer ici, un peu comme il le faisait pour le Christ précédemment, le type de l'écrivain. Pensez par exemple au portrait d'Ostoïevski que je vous montrais tout à l'heure par Perov. On a là à nouveau, n'est-ce pas, avec Tolstoï, ce type de l'écrivain qui nous est présenté, mais un écrivain qui est figuré dans une intimité qui ne gomme pas, je dirais, le côté quotidien et intime de la figure, une sorte d'individualité. On conjugue l'idée du grand génie, mais qui est en même temps un homme terrestre comme les autres. D'ailleurs, on retrouve cela dans un autre portrait. Je vous l'ai dit, Krasskoï a réalisé de nombreux portraits. C'est le cas notamment de celui-ci, qui est d'ailleurs un autre peintre. Livotchenko est un peintre, ami de Krasskoï, qu'il représente, vous le voyez, dans ce portrait-là, avec un peu la même idée que dans le tableau figurant Tolstoï. C'est-à-dire que Livotchenko nous est montré dans une attitude très familière. D'ailleurs, la familiarité de la pose, il est là avec une main en arrière, les gants sortent un peu négligemment de sa poche. Cette espèce de familiarité intime se conjugue avec une sorte de familiarité du traitement. Regardez comment l'arrière, par exemple, du tableau est traité, avec des sortes de touches un peu fébriles. Il y a là quelque chose qui n'est pas du tout apprêté. On est vraiment loin du travail académique d'un Brioulov, par exemple, que nous avons vu la dernière fois, dans une liberté du traitement qui va en fait avec la liberté de la pose très familière de l'artiste. C'est ça le travail de Krasskoï. Kramskoy, à qui l'on doit également ce tableau assez pathétique qui s'appelle « Irréparable malheur », qui représente, vous le voyez, une femme debout dans quelques salons d'une grande ville russe. Elle est en noir parce qu'elle vient de perdre un proche. Elle est également en pleurs et éponge ses larmes avec un mouchoir. Et vous voyez que auprès d'elle, il y a des caisses avec des fleurs et on est en train de confectionner une couronne mortuaire. On sent bien quelle est la raison de l'irréparable malheur, un deuil récent qui, évidemment, crée chez l'héroïne de ce tableau le deuil pénible qui est le sien. Notez que Kramskoy a réalisé ce tableau au même moment où lui-même il était affecté par la mort de son fils, qui évidemment l'a affecté lui-même et son épouse, et c'est à ce moment-là qu'il réalise le tableau que vous avez là, qui, vous le voyez, là aussi, une sorte de lien entre cette figure, j'allais dire, héroïque d'une femme endeuillée, qui, quelque part, résume bien tous les deuils que nous pouvons, hélas, connaître, et en même temps, une expérience personnelle, puisque c'est au moment de la mort de son fils qu'il réalise irréparable malheur. On voit bien comment, à chaque fois, cet artiste mêle, une nouvelle fois, la figure emblématique, typique, le deuil, avec un grand D, mais une expérience privée, une vie qui est celle des êtres humains que nous sommes toutes et tous. Ce qui est intéressant, en fait, dans le travail de Kramskoy, c'est décidément qu'il réussit dans une œuvre telle que celle-ci, par exemple, pleine de noblesse, de sobriété aussi, à montrer cette sorte d'angoisse contrôlée qui est celle de cette figure, mais à en même temps lui donner cette dimension psychologique qui est la sienne. Vraiment, Kramskoy est quelqu'un, vous le voyez, qui travaille l'intime de l'être humain en même temps que les figures archétypales qui vont du Christ à la figure du deuil ou du grand littérateur ou du grand peintre. On a avec Kramskoy quelqu'un qui décline vraiment le travail déambulant auquel il fait partie et qu'il a contribué à fonder. Mais un autre artiste important de cette société des ambulants, c'est Nikolaï Gay, dont je vous montre ici une œuvre. Nikolaï Gay est un personnage tout à fait intéressant, un peintre singulier, peut-être un des principaux et des plus importants peintres de cette Russie de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est un peintre assez complexe que Nikolaï Gay. D'abord, c'est un artiste qui a été, créé dans le giron de l'académisme. À vrai dire, Gay est un élève de Bassine, et Bassine était lui-même un disciple de Brioulov. Vous vous rappelez de Brioulov, le grand académiste que nous avons vu la dernière fois, celui qui a réalisé Le dernier jour de Pompéi, dont je vous reparlais tout à l'heure. Brioulov, c'est le représentant de la peinture académique russe vers le milieu du XIXe siècle. Eh bien, Gay est une sorte d'héritier, si vous voulez, de cette grande peinture académique dont Brioulov est l'emblème. Et en même temps, Gay est un artiste qui a été très sensible à la tradition plus romantique, celle d'un Venedianov, par exemple. Et c'est quelqu'un qui donc va, dans son art, combiner ces deux tendances, l'académisme d'un côté, le romantisme social de l'autre, d'où un travail tout à fait singulier. Ce qui va être singulier également chez Nikolaï Gay, c'est sa vie même. La vie de Gay est une vie très, très singulière, une vie en dents de scie, avec des hauts, des bas, des très hauts, des très bas. Et le tableau que je vous montre ici est justement une des œuvres qu'on peut situer au départ de sa carrière et qui va jouer un rôle assez important dans sa carrière même, justement, mais aussi dans l'histoire de la peinture russe. Il faut en effet savoir que Nikolaï Gay, sorti de cet académisme qu'il a fait naître, va, comme tout artiste russe sorti des rangs de l'académie, essayer, en allant en Italie notamment, de trouver sa voie. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où, un demi-siècle plus tôt, un Tchédrine, nous en avons parlé la dernière fois de Tchédrine, avait trouvé son inspiration, Gay, un demi-siècle plus tard, en Italie, ne trouve rien. L'Italie, non, pour Gay, n'est pas du tout un lieu qui l'inspire particulièrement. À vrai dire, le beau idéal que cherche Gay n'est pas celui que l'on pourrait trouver en Italie. Par contre, ce qu'il va trouver en Italie, et qu'il va en quelque sorte rapporter en Russie, la Russie, qui après tout n'en est pas exempte non plus, c'est une sorte de réalité idéale de l'Évangile. L'Évangile va apparaître pour Gay comme une sorte de livre parfait, d'élément essentiel qui, on va le voir, toute sa vie va créer et, je dirais, exciter son inspiration. Le travail que vous voyez là, l'œuvre que vous voyez là, représente la scène, la dernière scène, hein, le dernier repas du Christ. Vous connaissez évidemment cet épisode. Et vous avez tous en tête des scènes célèbres. Et parmi toutes celles-là, la fameuse scène de Léonard Vinci, qui après tout, depuis des siècles, est notre image de la scène. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Gay, qui décidément, vous le voyez, tourne le dos à cette Italie qui ne l'inspire pas, hein, va essayer de représenter la scène d'une manière absolument singulière, et notamment, plutôt que de représenter le moment où le Christ, au milieu des apôtres, n'est-ce pas, célèbre avec le pain et le vin cette dernière scène, ce dernier repas, là, il choisit un autre moment, c'est le moment où Judas décide de partir. Et vous voyez, au centre du tableau, le Christ allongé, tout autour les apôtres, mais au premier plan, de dos, éclairé, ou plutôt non éclairé à contre-jour par une bougie qui est devant lui, Judas, qui est en train de remettre son manteau pour partir et pour, vous le savez, trahir le Christ qui est là devant nous. Et vous voyez l'œil étonné, je dirais, et peut-être un peu inquiet, surpris en tout cas, des différents apôtres, et notamment de Saint Jean. Cette scène-là, à vrai dire, n'a guère été montrée jamais par les peintres. C'est vraiment un moment très singulier que choisit ici Gay dans cette œuvre. C'est une vision qui est assez curieuse parce qu'elle mélange cette fin du repas avec cette sorte d'ombre sinistre et funeste qui est là devant à droite. Elle mélange le fer académique qui est celui de Gay. Hein. Gay est encore une fois un artiste académique qui vient de l'académie. On le sent bien, c'est un artiste qui, entre guillemets, sait peindre, hein, mais qui en même temps ajoute dans cette académie cette dose de réalisme brutal qui lui convient aussi, et qui lui permet de réaliser des œuvres telles que celle-ci. Notez que cette peinture, qui a fait grand bruit lorsqu'elle a été présentée au public en 1863, est loin d'avoir fait l'unanimité. On a trouvé qu'il y avait là quelque chose d'iconoclaste dans cette scène qui ne ressemblait pas à les scènes plus classiques et plus traditionnelles. Et justement, le petit scandale qui a été déclenché par la présentation de cette œuvre a une très grande influence à la fois sur l'art de Gay, mais également sur tout le reste du déroulement de la peinture en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Une autre œuvre de Gay, un peu plus tardive, qui a beaucoup marqué et sa carrière et la peinture russe, est celle que vous voyez ici. Cette œuvre représente Pierre le Grand interrogeant le tsarévitch Alexeï. Vous connaissez peut-être cet épisode, vous savez que Pierre le Grand, le fameux tsar hein, du XVIIe siècle, un tsar assez, c'est pour le moins d'ailleurs, autoritaire, hein, a eu de gros problèmes avec son premier fils, le tsarévitch Alexeï. Il est vrai qu'Alexeï a mené une vie de patachon, qui petit à petit l'ont amené très loin des sphères du pouvoir. Le moins qu'on puisse dire est qu'il s'opposait facialement à son père, facialement ou non d'ailleurs, parce qu'Alexeï a fui en Italie avec sa dulcinée. Il a fallu que les autorités russes aillent le rechercher jusqu'à Naples, n'est-ce pas ? Alexeï est vraiment quelqu'un qui a donné beaucoup de fil à retordre à son père, un père autoritaire, autocrate et cruel, vous le savez. Et vous savez aussi qu'à la fin de sa vie, Pierre le Grand a demandé à Alexeï, dont il imaginait qu'il ne pourrait en aucun cas lui succéder, d'abdiquer en faveur de son jeune frère, qui, lui, pourrait certainement reprendre, après Pierre le Grand, le trône de Russie. Mais Alexeï, s'étant montré relativement récalcitrant à cette idée, a finalement été emprisonné, et un jour on l'a retrouvé mort dans sa prison, une mort dont on estime qu'elle n'est sans doute pas trop naturelle. Donc ce que vous voyez ici, ce face-à-face qui nous montre Pierre le Grand d'un côté, le tsar à droite et son fils Alexeï, et j'allais dire un face-à-face absolument terrible entre un père mais aussi un tsar, un empereur qui est en train de condamner son fils qui est à gauche, grosso modo à mort, si vous voulez. On est donc là devant une scène absolument terrible. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau de Gay, c'est qu'il nous montre assez bien à la fois une scène absolument dramatique, un grand moment d'histoire de la Russie, hein, la succession d'un des grands tsars qui a, et avec quelle autorité et quelle cruauté, encore une fois, marqué l'histoire de ce territoire, mais en même temps, il le fait d'une manière très réaliste, un petit peu comme si on entrait dans cette salle, il n'y a pas là de grandiloquence historique, hein, cette volonté, là aussi, hein, de nous proposer une histoire un peu hors sol, en aplomb par rapport à la réalité. Non, l'idée est de nous faire pénétrer comme une petite souris dans la réalité d'une entrevue. Il y a donc chez Gay et chez les ambulants, de manière générale, on reverra chez d'autres, une volonté de lier la grande histoire, les grands événements qui marquent, en l'occurrence, l'histoire de la Russie et du monde, mais à la manière d'une peinture de genre, comme si la réalité, le quotidien le plus trivial, intégrait les grands événements de l'histoire pour nous les rendre justement plus directs. Hein. L'histoire est finalement ramenée au niveau qui est le nôtre. Ça, c'était assez nouveau, et cette œuvre de Gay a vraiment beaucoup marqué, à la fois Gay lui-même, mais la peinture de son temps, cette histoire quotidienne, pourrait-on dire, ces événements immenses, rabaissés au niveau de la vie quotidienne, voilà qui était un langage tout à fait nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au début de ces années 70, et pour une quinzaine d'années, Gay va connaître une sorte de période de crise créative. Pendant une quinze-vingtaine d'années, Gay va décider de partir de Saint-Pétersbourg et de Moscou pour aller en Ukraine. Il va en quelque sorte prendre ses quartiers. Il va continuer à peindre. Il va notamment réaliser toute une série de portraits, dont l'autoportrait que je vous montre ici. Mais pendant une dix-quinzaine d'années, on va trouver donc Gay vraiment de côté, dans une sorte de retraite un peu monacale, mais qui correspond à une vraie crise de créativité chez lui. Il est complètement pris par le doute. Il n'arrive plus vraiment à peindre, sinon des portraits. Il se met en retraite, de côté, pourrait-on dire. Et d'ailleurs, cet autoportrait, qui date de l'extrême fin de sa vie, montre bien le côté un peu halluciné de cet artiste, hein, qui doute de son travail, qui doute de la peinture, qui doute de son pays, et qui, vous le voyez, deux ans avant sa mort, nous propose cet autoportrait assez halluciné, assez tragiquement halluciné, qui est le sien. D'ailleurs, à cette époque, Gay réalisera d'autres portraits. Je pense notamment à ce portrait de Léon Tolstoï, qui est un de ses amis, et qu'il propose ici. Un portrait, d'ailleurs, qui montre, j'allais dire, une sorte d'intériorité du personnage. Il nous montre là un Tolstoï qui est, j'allais dire, complètement absent. Il est vraiment dans son travail. Le moment où Tolstoï est représenté, le moment où il écrit Anna Karénine. Hein, un moment, donc, où vraiment l'artiste, l'écrivain, est dans son œuvre. Il est en pleine méditation intérieure. Malgré tout, alors qu'il est, j'allais dire, replié sur lui-même, il y a une sorte d'irradiance qui sort du personnage. Ce portrait date de cette époque où Gay est un peu en retrait. Encore une fois, n'est-ce pas, il est dans ses 15 ans à peu près, de côté, un peu en réserve de la peinture, mais travaille des portraits dans le genre de ceux que nous venons de voir. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'à l'extrême fin de sa vie, dans les années 90, Gay va connaître une sorte de dernière nouvelle inspiration fulgurante, aussi rapide que novatrice, avec toute une série de tableaux très liés à la vie du Christ, et dont « Qu'est-ce que la vérité ?» que je vous montre ici est un des tout premiers exemples. Je vous l'ai dit, hein, dès le début de sa carrière, Gay avait été très très marqué par les évangiles, dans lesquels il avait trouvé une sorte d'idéal de réalité de la vie, de beau parfait. Et à la fin de sa vie, après cette crise créative, il revient à ses grandes thématiques en essayant, ça ne vous étonnera pas, de faire retomber au niveau quotidien des grands thèmes de l'évangile. Ici, vous reconnaissez la scène, hein, on a face à face Ponce Pilate d'un côté et de l'autre le Christ qui est devant lui. Hein. On a donc l'opprimé et l'oppresseur, le Romain et le Juif. Hein. D'un côté celui qui opprime, de l'autre celui qui va mourir sur la croix, un face-à-face fatal, avec un personnage un peu désinvolte qui finalement demande qu'est-ce que la vérité, et puis de l'autre la figure tragique dans l'ombre hein, du Christ lui-même. Et dans ce duo, dans ce face-à-face terrible, vous voyez bien, notamment dans la figure du Christ, comment Gay veut, d'une manière hyper réaliste, c'est une sorte de mendiant, de clochard que le Christ là, hein, nous fait redescendre dans une sorte de réalité. Le Christ n'est pas cette image parfaite, idéale, venant du ciel et descendu sur terre, que la peinture nous montre d'une manière éthérée depuis des siècles, non. C'est le mendiant qui est dans la rue, c'est celui qui est là, devant nous. Hein. Il y a vraiment cette volonté de nous montrer cette souffrance, ce doute, cette mort qui est là, devant nous, même s'il s'agit d'un des grands thèmes historiques de l'humanité entière. Voilà ce mélange à nouveau que l'on a vu dans les tableaux précédents de, je dirais, d'histoire immense et de réalité quotidienne qui est bien celui de l'artiste qui nous intéresse ici. Et on voit aussi très bien comment dans une œuvre comme celle-là, Gay, qui durant ses 4 années avant sa mort multiplie les œuvres, donne ses tripes dans la peinture. On est là devant des peintures, devant des œuvres dans lesquelles l'artiste va vraiment se révéler. Il va, dans une toile telle que celle-ci, montrer en quelque sorte ses qualités morales, mais qui tissent l'œuvre d'art qu'il réalise. On a exactement la même chose dans un tableau tel que celui-ci, La conscience, sous-titré Judas, qui nous montre ben, le thème que vous savez, hein, Judas qui est sur la route et qui voit les soldats s'éloigner, ils viennent de prendre le Christ hein, au jardin des Oliviers, et donc Judas est là tout seul dans l'ombre qui petit à petit l'environne, et la conscience de la trahison s'abat sur lui. Hein. Cette scène nous montre pourtant une scène nocturne assez ordinaire. C'est un chemin creux, empierré. On pourrait compter les cailloux sur la route. On voit dans le fond, n'est-ce pas, les ombres qui s'éloignent. Mais ce moment historique, en quelque sorte, et mystique s'il en est, est rabaissé au niveau du quotidien, avec une idée morale, pourrait-on dire, celle de la traîtrise et de la conscience, qui est évidemment fortement montrée ici par Gay. Mais les deux œuvres qui, à la fin de la vie de Gay, sont certainement les plus poignantes, les plus étonnantes et les plus modernes, sont d'abord Golgotha, l'œuvre que vous voyez là, un tableau absolument étonnant qui montre, vous le voyez au centre, le Christ, encore couvert et couronné de sa couronne d'épines, avec derrière les deux larrons, le bon, le mauvais, et puis un soldat avec sa pique. Et vous voyez sur la gauche, coupé par le bord du tableau, un personnage anonyme avec un bras et un doigt tendu vers le Christ, mais cette figure extérieure n'en est, j'allais dire, que plus présente. Vous remarquez également dans cette œuvre qu'il a aussi nous montre une sorte d'humanité du Christ. Hein, ce n'est pas un Christ éthéré que l'on va clouer sur la croix, mais bien un homme qui souffre, qui a souffert et qui voit la mort s'approcher de lui. Voilà une peinture radicale, directe, d'une brutalité incroyable, et la brutalité du thème se lie à la brutalité de la touche. Vous voyez notamment comment à l'arrière, hein, dans ce tableau qui date de 1893, on a quelque chose qui, à vrai dire, nous annonce les modernismes du début du XXe siècle. Hein. On a pu parler d'ailleurs dans une peinture telle que celle-là, d'une sorte de pré-expressionnisme. On a là effectivement quelque chose qui peut nous rappeler, 30 ans avant, ce que l'on verra plus tard, en particulier en Allemagne, entre les deux guerres, c'est-à-dire un expressionnisme brutal, direct, sauf que là, il s'agit encore une fois d'une scène religieuse, d'un moment de la passion du Christ, mais qui est ravalée au niveau d'une réalité quotidienne et tout à fait humaine. Quand d'ailleurs Gay réalise ce tableau, il dit que son but, je cite, c'est d'ébranler leur esprit c'est-à-dire le nôtre, hein, l'esprit des spectateurs, avec l'agonie du Christ. Et plus loin, il dit, je voudrais qu'ils hurlent au ciel. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de nous, en regardant ce tableau, hein, de nous faire souffrir nous-mêmes et par une espèce de franchise d'expression, de nous faire partager en quelque sorte cette exécution injuste qui est celle du Christ hein, et de nous faire partager d'une certaine façon cette brutalité terrible par l'expression de cette souffrance, expression qui existe dans l'image comme dans la manière de la peindre. Et l'autre tableau qui, à la même époque, va, à la fin de la carrière de Gay, incarner cette sorte de pré-expressionnisme, est un tableau que vous connaissez sans doute parce qu'il se trouve au musée d'Orsay. Hein, un tableau extraordinaire, incroyable, qui s'appelle Crucifixion, dont d'ailleurs l'artiste a fait plusieurs exemples, hein, dont celui du musée d'Orsay, et où vous voyez le Christ entre les deux larrons. Là aussi, vous remarquerez la remarquable, le cadrage tout à fait singulier hein, qui coupe un larron à droite, qui coupe l'autre larron à gauche. On a là une sorte de photographie un peu directe et mal cadrée, hein, une instantanéité, hein, mais qui sert l'expressivité de la scène. Et au centre, on voit le Christ qui s'affaisse dans la douleur. Et vous voyez de la même manière comment aussi bien la manière de peindre, hein, une sorte de rapidité, hein, que les couleurs, le chromatisme, un chromatisme d'ailleurs assez monochrome, hein, et j'allais presque dire un peu poussiéreux, presque sale, boueux, hein, accompagne l'expressivité. Quand il disait, avec l'œuvre précédente, « Je veux qu'ils hurlent au ciel », on voit bien qu'une telle phrase peut accompagner un tableau tel que celui-ci. D'ailleurs, cette sorte d'expressivité terrible et directe et outrée, on la retrouve chez Gay dans des esquisses qu'il a réalisées pour le tableau du musée d'Orsay. Je pense à cette esquisse-là qui représente le Christ et le mauvais larron, où vous voyez justement une espèce de fureur de la peinture, hein, d'expression brutale, hein, que l'on trouvera effectivement, hein, pensez à certains expressionnistes allemands du début du XXe siècle, hein, et on retrouve vraiment ici ce genre d'idée, mais encore une fois, une trentaine d'années auparavant. Gay est vraiment, chez les ambulants, chez ses premiers ambulants, pourrait-on dire, une personnalité très singulière qui marque d'une manière extrêmement originale la peinture russe, mais également la peinture européenne cette deuxième moitié du XIXe siècle. Mais il nous faut aller un petit peu plus loin et voir la suite des événements. La suite des événements dans cette évolution de la peinture en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle est incarnée par un artiste qui s'appelle Ilya Repine, mais également par d'autres artistes qui vont servir un genre de la peinture qui est justement ce que l'on appelle la peinture de genre. Et je vous propose d'aborder d'emblée ce deuxième chapitre. Ilya Repine, dont je vais maintenant vous parler, a fait également partie des ambulants. Les ambulants, je ne vais pas revenir dessus, c'est ce groupe, ce collectif d'artistes dont Kramskoy et Gay ont été les fondateurs. Mais après eux, d'autres artistes se sont agrégés dans ce groupe, un groupe qui d'ailleurs, allant vers la fin du siècle, va un peu s'étioler. Ce qui fait que certains artistes qui, au départ, faisaient vraiment partie du groupe, vont un petit peu s'en extraire au fur et à mesure que la fin du siècle arrive. Et Ilya Repine fait partie de ces artistes qui, au départ, ont appartenu au groupe des ambulants, mais qui, le siècle touchant à sa fin, vont, j'allais dire, s'éloigner d'un groupe qui s'étiole peu à peu. Repine est un artiste qui est originaire d'un milieu modeste, mais qui, lui aussi, est un fruit de l'académie. Hein. Repine est quelqu'un qui a suivi les cours de l'académie de Saint-Pétersbourg, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans le tableau que je vous montre ici. Ce tableau représente la résurrection de la fille de Jaïr. Hein. Vous connaissez ce miracle du Christ. Hein. Eh bien, dans ce tableau de 1872, Repine s'intéresse à ce miracle du Christ et vous voyez bien que toute la technicité de l'académie se retrouve dans un tableau tel que celui-là. Mais ce qu'il y a de nouveau, et qui d'ailleurs ne vous étonnera pas, parce que c'est le leitmotiv que je ne fais que répéter depuis le début de cette conférence, c'est la manière dont Repine, ici, une nouvelle fois, manie l'histoire et le quotidien. On a là une peinture qui, certes, est académique d'une certaine manière, notamment avec la figure du Christ qui est au milieu, n'est-ce pas ? Mais d'un autre côté, c'est vrai notamment dans les personnages qui se trouvent à droite, on a ici une sorte de quotidienneté de la scène qui ramène cette scène historique s'il en est, hein, celle des grands miracles du Christ, vers une réalité de la vie quotidienne. C'est vraiment ça, l'un des cœurs du travail des ambulants, et on le voit dans une œuvre telle que celle-ci, qui conjugue encore de manière assez équilibrée académisme et innovation par cette espèce de réalisme direct qui est le credo, pourrait-on dire, des ambulants. Mais l'œuvre qui, chez Répine, va peut-être marquer une césure nouvelle, c'est bien entendu les fameux « À l'heure de la Volga ». Tableau de 1873 qui a un peu d'ailleurs comme la scène que je vous montrais tout à l'heure de Gay, qui est un des jalons importants de la peinture en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle, énorme tableau qui a beaucoup marqué et qui a d'ailleurs marqué, si j'ose dire, Répine lui-même, parce que le groupe que vous voyez ici, Répine l'a observé. C'est un jour, en se promenant le long de la Volga et en voyant des haleurs qui tirent un bateau, qu'il va avoir l'idée de cette œuvre. D'ailleurs, Répine va plus tard revenir sur les lieux où il avait vu la scène, retrouver un certain nombre de haleurs, essayer, j'allais dire, de les portraiturer, parce que ce qui l'intéressait dans une œuvre telle que celle-ci, ce n'est pas simplement de nous montrer, j'allais dire, la dureté quotidienne d'un certain nombre de ces travailleurs russes qui sont là considérés comme des sortes de bêtes de trait. Dans cette œuvre, qui est encore assez classique, hein, vous avez là finalement une frise, j'allais presque dire, de manière un peu provocante, qu'on est là devant la frise du Parthénon, n'est-ce pas ? On a là une vision très très classique. On sent que Répine vient de l'académisme. Hein. En plus, c'est une peinture monumentale, très grande. Vraiment, on est là dans un travail qui vient du réalisme. Mais en même temps, l'idée de Répine est ici de montrer une sorte de réalité de la Russie du temps, par cette scène brutale, terrible, quelque part, mais aussi parce que chacune des figures que Répine a vues, interviewées, qu'il a représentées dans ce tableau, constitue pour lui une sorte de vision de la Russie moderne. Après tout, les personnages que vous avez là sont tous d'ethnies différentes. Ce sont des gens vieux ou jeunes, des gens différemment marqués par la vie. Pour lui, il y a une volonté, en quelque sorte, de créer là une espèce de catalogue des bases populaires de la Russie du temps. Il parle de son pays à travers une œuvre, certes réaliste, mais qui en même temps montre une vérité de la Russie de l'époque, avec, j'allais dire, une structure académique à la base. Répine, avec ce tableau, va donc s'ouvrir vers des travaux d'un genre un peu nouveau. Et d'ailleurs, il va bientôt partir en Europe. On le voit à Vienne, mais également à Paris. À Paris, où Répine va d'ailleurs avoir un certain nombre de liens avec les impressionnistes. Et parmi les impressionnistes, ou dirait-on plutôt les pré-impressionnistes qui vont beaucoup intéresser Répine, il y en a un, et ça ne vous étonnera pas, qui va intéresser ce peintre, c'est Manet. Un Manet qui est peut-être, parmi les pré-impressionnistes français, celui qui va le plus passionner Répine. D'ailleurs, cet intérêt des impressionnistes, et par exemple de Manet, que Répine va trouver dans son voyage européen, notamment à Paris, on le retrouve comme un écho dans ce portrait célèbre dû à Répine de Modeste Moussorgski. Vous connaissez bien sûr ce tableau ultra célèbre, hein, et vous connaissez aussi ce compositeur. Et ici, Répine nous le montre peu de temps avant sa mort, à un moment où Moussorgski est extrêmement malade. C'est d'ailleurs un homme qui n'est pas en très bonne forme qui nous est ici représenté, un homme malade qui souffre, plein de douleurs, et en même temps on voit dans cette œuvre, qui en quelque sorte transfigure son modèle, hein, une sorte de maladie transfigurée justement. Il y a de la douleur et de la souffrance, certes, mais aussi une sorte de foi et d'espoir dans une œuvre telle que celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est de voir une sorte de dimension psychologique dans une œuvre qui n'est pas simplement un portrait un peu externe, mais une œuvre dans laquelle l'artiste entre dans la profondeur du personnage. Vous admirez au passage également la grande dextérité picturale de Répina. On sent qu'il a regardé des artistes comme Manet et comment il quitte là son travail un peu, j'allais dire, empesé de l'Académie Saint-Pétersbourg pour trouver une sorte d'allusion de la touche qui, bien sûr, nous rappelle celui que l'on peut trouver en France chez les impressionnistes, qu'il a certes beaucoup admiré. Une autre œuvre de Répine fondamentale qui marque la peinture en Russie de cette deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la fameuse procession de Pâques dans le gouvernement de Koursk. Tableau, là aussi, de grande dimension, mais qui est un tableau capital pour l'évolution de la peinture de Répine et de la peinture en Russie à l'époque. Qu'est-ce qu'on nous montre ? Eh bien, une procession de Pâques dans une cité provinciale. La foule est considérable, des centaines, des milliers de personnes sont là devant nous. On sent une sorte de mouvement, n'est-ce pas ? La foule arrive vers nous, on est nous-mêmes pris, en quelque sorte, à l'intérieur de cela. Il y a une dimension assez photographique, là aussi. Vous remarquerez comment la composition fait qu'elle est coupée à droite, comme une photo un peu ratée, comme nous en faisons tous les jours. Le cadrage est très spécial. Et puis, il y a surtout ici une sorte d'immédiateté. Vous voyez à travers le bossu qui est à gauche, qui est claudique sur la gauche, mais aussi dans la figure sur la droite du cavalier qui est en train avec sa cravache de donner un coup à quelques paysans peut-être qui est en train de brailler auprès de lui. Vous voyez comment il y a des éléments instantanés, il y a à la fois une volonté d'individualisation de chaque figure, de chaque personnage, mais la volonté presque photographique de nous montrer une immédiateté dans cet espace pictural qui nous est ici montré. C'est une scène de plein air qui est là. Là aussi, on peut comprendre qu'il y a dans une œuvre telle que celle-ci un souvenir de ces scènes de plein air que les impressionnistes qu'il a vues à Paris multiplient et qu'il a admirées. Mais une scène de plein air nombreuse, une sorte de foultitude, où on voit là aussi, un peu comme dans les Halleurs de la Volga tout à l'heure, une espèce de catalogue de la Russie du temps, où se côtoient de bons bourgeois, vous voyez par exemple au centre quasiment, une bonne bourgeoise qui est en train de tenir une icône, doctement, alors que tout autour d'elle, on voit des paysans visiblement bien moins lotis qu'elle. On a donc là une sorte de catalogue de la Russie provinciale du temps qui nous est fourni, mais dans une volonté réaliste, presque photographique, que Répine nous propose. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans une série d'œuvres que Répine réalise autour du thème de l'héroïsme révolutionnaire. C'est que nous approchons de la fin du siècle et que vous savez que le début de l'autre va être marqué par la révolution que l'on sait et qui ne s'est pas produite du jour au lendemain. Vous savez que la fin du XIXe siècle est l'objet en Russie de certaines contestations et l'héroïsme révolutionnaire va devenir une sorte de cheval de bataille d'Ilia Répine qui par là, évidemment, retrouve ce qui lui est cher, cet héroïsme remarquable, élevé, si vous voulez, qui est un peu au-dessus de nous et en même temps, cet héroïsme qui est lié à la vie quotidienne qui est la nôtre, conjugué, j'allais dire, ce qui est supérieur et ce qui est quotidien. Voilà quelque chose qui intéresse Répine et que l'on voyait d'ailleurs d'une même manière chez d'autres ambulants comme Gay, par exemple. Eh bien ici, que voit-on ? On voit un révolutionnaire qui revient dans sa famille. Il a sans doute passé quelques mois ou années dans les geôles, n'est-ce pas ? Et voici qu'il est restitué à sa famille. Et il entre, hirsute, mal habillé, chez sans doute sa mère, qui évidemment, toute surprise, le voit arriver et se lève de son siège. On devine un peu plus loin une jeune femme, sa sœur peut-être, qui sait, et sur la droite, deux enfants qui s'interrompent une minute de leur jeu ou de leurs études pour voir le nouvel arrivant, à la fois surpris et amusé. Là aussi, on est dans une instantanéité. La porte vient de s'ouvrir et le révolutionnaire libéré entre. On ne l'attendait pas, c'est le titre du tableau. Le titre joue un grand rôle, le titre fait partie, en quelque sorte, de l'œuvre. Et voilà qui d'une nouvelle manière, nous montre, avec un sentiment ambivalent, hein, on sent que le révolutionnaire est à la fois heureux de retourner chez lui, mais un peu anxieux de voir la manière dont il va être reçu. Sa mère, qui se lève là, est à la fois heureuse de voir son fils arriver, mais un peu, j'allais dire, secouée de ces années où peut-être la famille a été mise à l'index du fait même de, je dirais, l'attitude de ce révolutionnaire enjôlé, si vous voulez. En fait, tout ça est à l'œuvre dans une peinture qui ressemble à une photo où là aussi le cadrage n'est pas un cadrage, entre guillemets, chiadé, hein, d'un artiste officiel. Vous verrez comment, par exemple, la mère qui se lève coupe le portrait de la jeune femme qui est dans le fond. Hein. On est dans une sorte de scène cinématographique qui aurait été arrêtée sur une image et qui nous propose cet instantané. D'ailleurs, cette image de l'héroïsme révolutionnaire se retrouve dans une autre œuvre de Répine, assez proche, l'arrestation du propagandiste. Hein. On est là dans une scène plus brutale. Hein. Le propagandiste, il est au milieu, en rouge. Il vient d'être arrêté, l'arrestation a été un peu musclée, il saigne un peu sur la tempe, on voit des policiers qui l'entourent, au premier plan à droite, la censure est visiblement là, hein, qui est en train de lire d'un peu plus près les tracts qui ont été recopiés, imprimés, dans le fond à droite, quelqu'un est en train de brandir une liasse de tracts qu'on vient de trouver, et dans le fond à gauche, près de la fenêtre, il y a les traîtres, hein, ceux qui ont dénoncé le propagandiste qui est au centre, d'ailleurs le propagandiste est en train, par un regard latéral, de jeter des yeux furibards, pourrait-on dire, aux traîtres qui l'ont dénoncé. Là aussi, on est dans une sorte d'immédiateté brutale. D'ailleurs, il y a encore sur le sol des tracts déchirés. On sent qu'il y a eu quelques pugilats. Cet héroïsme révolutionnaire m'est devenu quotidien. Voilà le pain que Répine souhaite nous montrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que, mais on a déjà vu ça chez d'autres artistes du temps, Gay en particulier, cette volonté de mailler l'héroïsme, n'est-ce pas, et le quotidien, on la retrouve dans les grandes peintures d'histoire réalisées par Ilia Répine. Parce qu'après tout ce que je vous montrais jusqu'à maintenant chez lui, depuis la résurrection de la fille de Jaïr, c'était plutôt des scènes de la vie quotidienne, héroïsé par Répine, mais montré avec réalisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir la même attitude avec les grandes scènes historiques. Par exemple, le meurtre par Ivan le Terrible de son fils Ivan. Vous assistez ici en direct à la mort du jeune Ivan, du Tsarevitch, qui meurt entre les mains de son père. Ivan le Terrible, vous savez, est devenu fou. Il va tuer le jeune Ivan et cette scène médiévale nous est montrée ici d'une manière terrible, extrêmement réaliste, un réalisme brutal, avec notamment cette figure psychologiquement assez dérangée, hein, de Ivan le Terrible, avec ses yeux exorbités. On est là, j'allais dire, dans un asile de fous qui nous est montré à l'intérieur d'une scène d'histoire. Et d'ailleurs, on trouve la même chose, mais de manière cette fois beaucoup plus plaisante, avec ces fameux Cosaques Zaporog écrivant une lettre au sultan de Turquie. Oh, l'histoire est une histoire bien connue, hein. Dans le cadre des luttes entre les Turcs et les Russes, luttes dans lesquelles les Cosaques en particulier jouent un rôle très important, ici les Cosaques Zaporog se sont réunis pour écrire des lettres d'insultes et d'injures au sultan de Turquie. C'est à qui trouvera les mots les plus orduriers, n'est-ce pas? Évidemment, ça fait rire beaucoup de monde, hein. Vous voyez au premier plan, hein, les Cosaques qui rigolent, qui hurlent de rire, hein. D'ailleurs, cette peinture a beaucoup fait rire en Russie au moment où elle a été présentée. Vous voyez d'ailleurs le Cosaque au premier plan qui s'écroule de rire au premier plan, tellement le mot qu'il vient de prononcer contre le sultan de Turquie est un mot encore plus ordurier que les autres, n'est-ce pas? L'idée, c'est la surenchère d'horreur contre le sultan Oni qui est l'ennemi des troupes russes. Vous voyez que cet héroïsme peut aller, cet héroïsme dans l'histoire, hein, peut aller des scènes les plus brutales que l'on vient de voir aux scènes les plus cocassement ironiques comme ces Cosaques Zaporog. Notez que à la fin de sa vie, Répine après tout ne meurt qu'en 1930, hein, mais je ne parlerai pas des dernières années de Répine, je fais quand même une petite incursion vers le début du XXe siècle avec Cette autre œuvre de Répine, qui est aussi d'ailleurs conservée au musée d'Orsay, il y a peu de peintures russes en France, mais il y en a quelques-unes, à autant les connaître, hein. Œuvre très intéressante, qui est, avec d'autres, une esquisse réalisée par Répine pour un énorme tableau qui s'appelle « Cérémonie officielle du Conseil d'État », dans lequel Répine devait représenter sur une très grande toile, encore une fois, un certain nombre de membres du Conseil d'État siégeant autour du tsar. Répine a donc réalisé la toile en question, monumentale, mais également toute une série d'esquisses, car Répine, qui avait accepté cette commande, l'avait acceptée sous réserve qu'il puisse faire des portraits directs de chacun des protagonistes. Et vous avez ici un portrait fait du prince Mikhaïl Alexandrovitch Romanov. Vous voyez très bien comment, dans cette œuvre beaucoup plus tardive, 1901, on est à l'aube du XXe siècle, Répine nous propose un style encore plus libre. Vous vous rappelez du portrait de Moussorgski de tout à l'heure? On voit là que Répine passe encore une vitesse. Il nous propose, dans un tableau tel que celui-là, une touche encore plus allusive, un travail encore plus, entre guillemets, impressionniste, hein, qu'il va d'ailleurs confirmer dans d'autres portraits du temps, comme ce très beau portrait que je ne pouvais pas ne pas vous montrer, qui représente Pavel Tretiakov. Hein. Je vous ai parlé la dernière fois de Tretiakov, qui est le fondateur de la galerie qui porte son nom. Tretiakov, qui avec son frère a non seulement collectionné énormément de peintures russes, mais a permis la réalisation de la fameuse galerie Tretiakov. Et vous voyez là comment, avec la liberté de pose, le modèle est présenté quasiment de profil, hein, dans un entourage qui n'est pas du tout académique, avec des couleurs qui ne le sont pas moins et une touche très singulière, comment Répine incarne bien ce passage, une sorte de tradition de la grande peinture du XIXe siècle, une modernité qui est celle du siècle suivant. Alors, pour en terminer avec Répine, mais aussi les autres peintres qui l'entourent à cette période, je voulais en citer simplement deux autres. D'abord, Constantin Savitsky, et pas Stavitsky, hein, Savitsky, qui est un peintre appartenant à ces ambulants de la fin du siècle et qui vont également conjuguer cette vision directe, brutale, réelle de la réalité. C'est le cas ici avec les travaux de la voie ferrée que nous vous propose ce peintre, ou bien un autre artiste, Makovsky, qui nous propose ici la banqueroute, autre manière, n'est-ce pas, de nous faire pénétrer dans une réalité quotidienne, mais la plus directe, la plus crue, avec là ces personnes, n'est-ce pas, qui sont en train de s'offusquer de la banqueroute. Vous imaginez le pugilat qui a lieu actuellement dans cette salle. J'aimerais poursuivre, et quasi d'ailleurs terminer cette séance, par un troisième petit chapitre qui est consacré à la peinture d'histoire. Parce que nous l'avons vu, les ambulants conjuguent le genre, l'histoire, et travaillent le réalisme avec une volonté farouche, pourrait-on dire. Mais il est intéressant de voir comment il va y avoir, dans cette fin du XIXe siècle, une volonté très singulière d'un certain nombre de peintres de travailler la peinture d'histoire. C'est le cas en particulier avec un peintre dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom, je vais quand même essayer, mais je ne vous jure pas du résultat, Verechtchagin. Cet artiste, dont je ne reprononcerai pas le nom, est un artiste vraiment très particulier qui s'est intéressé en cette fin du XIXe siècle à la représentation de la guerre. Et je vous montre ici un de ses tableaux les plus étonnants qui représente, vous le voyez, une montagne de crânes. Il est vrai que notre artiste, qui est vraiment le peintre de la guerre, a voulu représenter la guerre dans toute sa violence. Je ne vous montrerai pas d'autres œuvres de lui, mais il a figuré beaucoup d'autres scènes guerrières où on voit des empilements de cadavres, des gens en train de s'entretuer, des soldats mortellement blessés. Bref, il y a chez cet artiste une volonté presque journalistique, photographique, de représenter la guerre. Et le tableau le plus, je dirais, le plus radical de lui est sans doute cette apothéose de la guerre, mais qui correspond à des choses vues, n'est-ce pas, hein. Verechtchagin, est un artiste qui, encore une fois, nous propose une vision avec ses yeux. Il a fait la guerre du Turkestan, de cette guerre qu'il honnit et dont il nous montre toute la barbarie avec cette sorte d'icône extraordinaire, hein, qui, par sa violence, à mon avis, n'a pas d'équivalent dans l'Europe du temps. On a là vraiment une peinture fondamentale de la production européenne, fût-elle orientale, de ce XIXe siècle. Mais il est deux autres artistes qui vont beaucoup travailler la question de l'histoire dans la peinture, et parmi eux, Vassili Sourikov. Vassili Sourikov est vraiment un peintre d'histoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va chercher dans les tréfonds de l'histoire ce qu'elle peut avoir de singulier. Il ne va pas, si vous voulez, aller essayer de regarder comment il y a du contemporain dans l'histoire. Hein. Ça, c'était plutôt le rôle des artistes précédents. Ce qui va plutôt l'intéresser, c'est une dimension, je dirais, sociale de l'histoire. Et on le voit, par exemple, dans ce tableau qui représente le matin de l'exécution des Streltsy. Là aussi, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce mot-là. Les Streltsy étaient un... je ne suis hélas pas russophone, mais bon, je m'en excuse. Oui, sont un corps d'élite qui avait été créé à l'époque d'Ivan le Terrible, un corps d'élite qui était proche du tsar, mais à l'époque de Pierre le Grand, ce corps d'élite qui avait droit à un certain nombre de privilèges va se révolter contre le tsar, et la révolte des Streltsy va être matée par le tsar, et Pierre le Grand, vous le savez, n'y allait pas de main morte. Après avoir maté cette révolte, il va décider de faire exécuter les personnes en question. Cette exécution, oui, je trouve des moyens d'éviter certains mots. Cette exécution aura lieu sur la place Rouge, et vous voyez ici le matin même où l'on a amené dans des chars les Streltsy et où on les amène petit à petit vers le gibet que vous voyez dressé dans le fond à droite. D'ailleurs, on amène déjà un de ces Streltsy en question, vous le voyez sur la droite, il va être amené sur le gibet, et vous voyez à gauche le groupe de ces futurs exécutés qui sont là en train soit de se morfondre, en train éventuellement encore de faire face au tsar, parce que sur la droite, perché sur son cheval, il y a Pierre le Grand qui a tenu en personne à assister à l'exécution en question. Cette espèce de face-à-face hein, entre les victimes et Pierre le Grand juché sur son cheval, sous l'ombre, vous la reconnaissez, hein, de l'Église, hein, qui, dans le fond, est une sorte de, comment dire, de fantôme hein, glorieux de la Russie et qui vient de son sceau clore la scène, en quelque sorte. Il y a donc là une volonté de travailler l'histoire russe, non pas forcément, encore une fois, de nous proposer une vision parallèle de l'époque contemporaine, c'est-à-dire la fin du XIXe et de l'histoire russe, mais de célébrer l'histoire russe d'une manière réaliste. Et d'ailleurs, on retrouve la même chose dans cet autre tableau, la fameuse boyarine Modrozova, qui nous est ici proposée par le même Sourikov. La boyarine Modrozova, c'est une femme de la noblesse russe, hein, c'est une boyarde donc, et son histoire qui nous fait replonger au Moyen-Âge, précisément à la fin du XVIIe siècle, à l'époque de certaines oppositions religieuses. En effet, nous sommes là à l'époque d'une révision religieuse, d'une réforme religieuse, celle du patriarche Nikon, mais un certain nombre de personnes vont s'opposer à cette réforme religieuse, notamment ce que l'on appelle les vieux croyants. Et justement, la boyarine Morozova était une de ces fanatiques des vieux croyants qui s'opposaient à la réforme en question. Elle s'est tellement bien opposée à la réforme, d'ailleurs, qu'elle a été finalement emprisonnée. Et ce que vous voyez là, c'est justement le moment où on emmène en prison la boyarine en question. C'est donc une scène, j'allais dire, assez clairement composée hein, par Sourikov. Au milieu, vous avez la boyarine sur son traîneau, on l'emmène en prison. À droite, vous avez les partisans de la boyarine, hein, les vieux croyants qui sont là, qui s'agenouillent dans la neige et qui font des signes à la boyarine, hein, des signes d'amitié, alors que sur la gauche, dans le fond à gauche, vous avez les opposants qui s'amusent de l'enlèvement, pourrait-on dire, de la boyarine qui bientôt va croupir dans les jaunes du tsar. Vous voyez donc une nouvelle fois comment une scène d'histoire, une scène qui a vraiment ossaturé, pourrait-on dire, l'histoire de la Russie au XVIIe siècle, hein, est traitée d'une manière très réaliste, jusque dans les sillons, n'est-ce pas, laissés par le traîneau au premier plan. Il y a vraiment là une volonté de rendre quotidienne un grand moment de l'histoire de la Russie. Et d'ailleurs, on trouve la même chose, toujours dans cette œuvre de Sourikov, avec l'épisode où le général Souvarov fait franchir les Alpes à son armée. C'est un épisode assez plaisant d'ailleurs, pas tellement pour nous Français d'ailleurs, hein, de l'histoire de la Russie, où après la retraite de Russie, les troupes russes vont aller jusqu'en Suisse, hein, pour confondre, dirons-nous, les troupes françaises, et un moment notamment où le général Souvarov a réussi à faire franchir les Alpes à son armée, un franchissement un peu sportif, comme vous le voyez là, et pour galvaniser ses troupes, le général Souvarov leur disait des sortes de plaisanteries, et c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire qu'on a une scène historique, n'est-ce pas, grandiose, et en même temps amusante. Vous voyez d'ailleurs les soldats qui sont en train de dévaler les pentes tout en rigolant, si j'ose dire. Vous avez là d'ailleurs quelque chose qui nous rappelle nos Cosaques Saporog de tout à l'heure, hein, une sorte de combinaison assez ambiguë d'histoire, de quotidien, de dramatique en quelque sorte, et de drôlerie. Bref, une sorte d'humour qui intègre l'histoire, finalement un travail très typique de ces réalistes russes du 19e siècle. Alors, Sourikov n'est pas le seul de ces artistes russes qui se soit illustré dans le domaine de la peinture d'histoire dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y en a un autre, Vaznetsov, dont vous voyez ici une œuvre. Mais lui, Vaznetsov, s'est particulièrement intéressé à un retour au grand Moyen-Âge russe. Ici, vous voyez un des épisodes de la vie du prince Igor, le lendemain d'une bataille, où on voit le champ de bataille couvert de cadavres. D'ailleurs, les oiseaux commencent à venir dépecer les cadavres, et dans le fond, une lune rouge commence à poindre à l'horizon. On est là dans une volonté de Vaznetsov de nous faire plonger dans un Moyen-Âge russe primal, pourrait-on dire, premier, où, de manière un peu ambiguë, il nous montre une sorte de Moyen-Âge très ancien, rude, fruste, mais calme en même temps, où, en même temps, la végétation joue un certain rôle. On est ici très surpris de voir cet empilement de cadavres sordides, mais en même temps une végétation qui a l'air de continuer sa vie parallèlement à cette jonchée de corps. Et cette espèce de face-à-face-là apparaît dans d'autres œuvres. Par exemple, ce chevalier à la croisée des chemins, où là aussi, hein, Vaznetsov nous emmène dans les tréfonds du Moyen-Âge. On est sans doute au XIIe siècle. On a une sorte de grand héros, une sorte de chevalier du Graal, sauf qu'on est dans l'extrême orient de l'Europe, pourrait-on dire. Et on voit bien d'ailleurs un certain goût de Vaznetsov pour un folklorisme russe que l'on retrouvera d'ailleurs dans une œuvre telles que celle-ci, les Bogatyrs, qui sont des sortes de héros traditionnels des légendes russes, des sortes d'Hercules médiévaux, pourrait-on dire. Vraiment, chez Vaznetsov, il y a cette volonté d'aller, de retrouver une sorte de mythologie russe des origines à travers un Moyen-Âge plus ou moins mythifié. Et je terminerai tout à fait cette séance par un chapitre qui nous fera souffler un peu, en fin de cette heure et quart, voilà qui nous fera du bien, et qui est un chapitre consacré au paysage. Parce qu'une des grandes conquêtes de la peinture russe de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est justement le paysage. À venir de paysage, je vous ai peu parlé durant ces deux séances. On a vu des portraits, on a vu de la peinture de genre, on a vu de la peinture d'histoire, on a peu vu de nature morte, et on a encore moins vu de paysages. Chers des paysages, ils étaient présents à l'arrière des œuvres que je vous ai montrées, mais le paysage en tant que tel n'est pas vraiment un genre pictural illustré par la peinture russe du XIXe siècle. Eh bien, à la fin du XIXe siècle, débarque le paysage. Avec d'ailleurs deux grands courants. Un premier qui est notamment incarné par Savratsov, qui est un paysagiste que je qualifierais de relativement réaliste, pour ne pas dire académique. Voilà, par exemple, ici, un très beau paysage qui s'appelle « Les Freux sont revenus », un monastère vu sous la neige avec des oiseaux, une sorte de corbeau au premier plan, qui sont ici représentés. Savratzov est donc un de ces peintres qui se met dans la nature et qui représente, à la manière des Barbizoniens, pourrait-on dire, hein, les paysages qu'il a sous les yeux. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Tchitchkin est un autre de ces paysagistes-là, de ce courant, pourrait-on dire, réaliste du paysage, qui nous montre ici une espèce de grand panorama, route dans les seigles, décidément bien réaliste, tout comme d'ailleurs un tableau beaucoup plus tardif qu'il réalisera, ce charmant matin dans la forêt de sapins, avec ses charmants oursons. On voit bien là, n'est-ce pas, une volonté de se confronter à une réalité presque à nouveau photographique. Hein. Mais peut-être là où les paysagistes russes marquent de grandes innovations à la fin du XIXe siècle, c'est dans un deuxième courant qui est incarné par deux peintres très importants, et d'abord Isaac Levitan. Levitan est quelqu'un qui va travailler le paysage avec une volonté, j'allais dire, de le rendre, de lui donner une dimension, j'allais presque dire, psychologique. Par exemple, dans un tableau comme « Les cloches du soir » que vous voyez ici, où le titre joue un rôle en même temps que l'image, on croit sentir résonner le clocher de l'église que vous avez devant vous. Comme pour, dans ce paysage de fin de journée, nous faire sentir une sorte de mélancolie que le paysage a pour but de supporter. Il y a une volonté là, pas simplement de nous montrer un paysage, mais de doter ce paysage d'une dimension psychologique qui est notamment évoquée par le titre lui-même de l'œuvre. D'ailleurs, Levitan va poursuivre dans cette voie avec des œuvres telles que celle-ci, Par-dessus la paix éternelle. Là aussi, le titre accompagne l'œuvre. On voit bien qu'au-dessus de cette petite église qui est accompagnée d'un cimetière, hein, évoquant la paix éternelle justement, Levitan montre une sorte de ciel immense, une mer qui ne l'est pas moins. Il y a là aussi, encore une fois, la volonté, à travers d'un paysage assez humble, assez quotidien, de nous élever, hein, vers une dimension qui est beaucoup plus symbolique, pourrait-on dire. En ce sens, Levitan pourrait être un peintre que l'on appellerait symboliste d'ailleurs. Vous remarquez qu'il y a là une volonté chez lui d'aller de plus en plus vers de grands aplats colorés, une grande mer bleu clair, un grand ciel gris plus ou moins foncé, un peu de terre verte, bref, des grands aplats colorés, et une volonté très simplifiée, très symboliste encore une fois, de nous faire participer à ce paysage qui tranche avec le réalisme d'un Tchitchkin, par exemple. C'est la même chose dans ce crépuscule de Levitan, qui là aussi nous montre une sorte de manière de résumer le paysage. Ce paysage de crépuscule, est-ce le crépuscule du matin ou du soir? On ne sait. Mais en tout cas, de la même manière, voilà un tableau qui fait sourdir en nous une sorte de mélancolie du soir ou de joie du matin. Les deux sont ici un peu mêlés, avec de nouveau une manière très allusive de la touche, mais également de la couleur. Voilà un tableau monochrome qui va du brun foncé ou au vert foncé jusqu'au brun bleu les plus clairs. Bref, une économie de moyens, mais pour un maximum, je dirais, de sens. Et l'artiste qui va peut-être pousser le plus loin cette vision, entre guillemets, symboliste-loi, c'est Kunji, avec ce bois de bouleau tout à fait étonnant, où vous voyez que l'artiste, poussant encore plus loin le cochonnet que Levitan avait déjà envoyé, va travailler ses couleurs avec de grands aplats qui permettent de synthétiser encore plus la touche qui est la sienne. C'est vrai dans ce tableau qui date de 1879, mais c'est encore plus vrai dans ce clair de lune de Dniepr que vous voyez là, qui date de l'année suivante. Finalement, un tableau, alors là, puissamment monochrome, avec quasiment rien, sinon un fleuve qui est, lui, vaguement sous la lumière de la lune, un tableau dans les bleus foncés, qui vraiment est réduit à quasiment rien. Hein. Donc, un minimum d'effet pour un maximum de sentiments, pourrait-on dire. Et on pourrait dire peut-être aussi que cette idée culmine dans des œuvres aussi étonnantes que celle-ci, qui date de 1908. Je sors là de mon domaine chronologique. du même Quinji, qui nous montre un clair de lune dans la forêt en hiver. Voyez là qu'on confine finalement une sorte d'abstraction. Alors certes, la neige en hiver qui recouvre la végétation donne volontiers hein, ce genre de spectre blanc-gris que vous voyez là. Mais évidemment, ici l'artiste en remet une couche, pourrait-on dire, en essayant de souligner encore de manière très allusive, hein, très résumée, avec une seule couleur, un gris plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Voilà qui enfonce encore le clou de cette sorte de symbolisme du paysage qui est celui de Quinji, qui nous montre de manière très abstraite une vue d'une véritable forêt, mais qui a pour but, en l'ardant abstraite, de nous donner à voir, de nous donner à ressentir des sentiments singuliers. Voilà donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à travers ces différents artistes qui évidemment ouvriront sur une autre phase de la peinture en Russie, celle des avant-gardes, mais là, c'est une autre histoire. Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle que j'ai mis la référence de cet ouvrage sur la page de la première conférence. Voilà.